Il est 7h27 minutes. Le président du Comité permanent de la sécurité publique et nationale a confirmé hier que le comité allait se réunir d'urgence au cours des 5 prochains jours pour étudier le fameux cas de vol de données chez Desjardins. On sait qu'il y a 2,9 millions, les données de 2,9 millions de personnes qui ont été volées. Et donc, on pense bien sûr que ça a été vendu pour du vol d'identité, pour d'usurpation d'identité. Alors, justement, quelles sont les règles au Canada quand survient une histoire comme celle-là impliquant une institution financière? Michel Picard est député de Montarville. Il est député du Parti libéral, mais il est membre du Comité permanent de la sécurité publique et nationale. Bonjour, M. Picard.
Bonjour.
Alors, quelles sont les règles là, au Québec et au Canada, en fait? On a l'impression qu'on n'en fait pas suffisamment pour protéger l'identité des gens, les renseignements personnels, de sorte que des situations comme celles qu'on connaît avec Desjardins peuvent survenir?
Il y a plusieurs angles à la question, parce qu'il y a plusieurs problèmes reliés à la même situation. Premièrement, il est important que vous sachiez que la question de la cybersécurité et des problèmes de fraude dans les institutions financières, précisément, c'est l'objet de l'étude que nous avons déjà entamée depuis janvier. C'est l'étude que j'ai proposée au comité, qu'on a fait depuis janvier et qui s'est terminée en juin dernier. Donc, on a parlé aux institutions financières, aux associations des banquiers, aux gens d'intelligence artificielle, à une panoplie d'experts, justement parce que on voulait parler de cette question-là, que je connais depuis quand même plusieurs années, parce que ça fait une vingtaine d'années que je me spécialise sur les questions de fraude, mais on voulait voir de quelle façon on devait aborder cette question un peu épineuse des vols de données, notamment dans les institutions financières. Et c'était l'objet de notre étude qu'on a faite déjà tout l'hiver. Et je peux vous dire, on a ouvert des cannes de verre. Quelquefois, c'était épeurant, mais c'est un sujet qui est extrêmement vaste et qui reste beaucoup de travail à faire.
Pourquoi vous dites que c'était épeurant? Qu'est-ce qui est épeurant là-dedans?
Ben, écoutez, plusieurs questions que je vous soumets. Une des questions qu'on a posées, et c'est la question que j'ai répétée autant au comité de sécurité qu'au comité d'éthique où je siège aussi. Oui. On a rencontré Facebook, on a rencontré toutes les grandes compagnies qui ont eu des problèmes avec les informations personnelles piratées. C'est de quelle façon vous gérez le risque humain? Et j'ai posé la question en sachant un peu la réponse d'avance parce qu'il faut réaliser que de tous les problèmes informatiques qu'on rencontre, il y a un risque qui est pratiquement impossible à contrôler, c'est le risque humain. Donc, la personne qui décide un matin de dire « par la pas du gain » pour essayer de faire un bon coup parce qu'elle est frustrée, parce qu'elle est menacée par un groupe criminel organisé ou non, là, elle va commettre l'irréparable et il faut gérer ça. Et ça, à un moment donné, même le meilleur système informatique au monde est conçu par un individu qui est déjà le point de vulnérabilité du système.
Oui, mais là, on ne peut pas faire construire nos logiciels par des machines, là. Ça n'existe pas encore, là.
Même là, les machines vont être conçues par des individus qui n'ont pas réalité. Donc, effectivement, il faut gérer le risque.
Bon, alors, je vous pose cette question-là, puis j'essaie de ramener ça au plancher des vaches parce que c'est très complexe, là. Mais il y a une nouvelle cette semaine qui, moi, m'a quand même étonné et amené à faire un parallèle avec ce qui se passe avec Desjardins. Je ne sais pas si vous avez vu la compagnie British Airways qui a été condamné par un comité semblable au vôtre, c'est une espèce d'autorité des marchés financiers au Royaume-Uni, en fait, qui a condamné British Airways à 300 millions d'amendes parce qu'ils se sont fait voler les données personnelles de 500 000 de leurs clients. Là, chez Desjardins, on est à 2,9 millions de clients dont l'identité a été volée. Puis eux autres, il n'y a pas d'amende, il n'y a rien pour l'instant, on n'a rien entendu, il n'y a pas de poursuite, est-ce que ça manque ça, chez nous? Si on avait un mécanisme comme celui-là, est-ce que les compagnies ne seraient pas plus promptes à protéger les renseignements des gens?
Il y a il y a une certaine culture au Canada où les amendes importantes, comme on voit aux États-Unis, Royaume-Uni, des choses comme ça, on ne voit pas ça au Canada. Est-ce qu'on devrait le voir? Pourquoi pas? Moi, dans les propositions que j'ai faites, dans les deux projets de loi que j'ai déposés, j'ai effectivement fait sauter des maximums de pénalités, justement pour avoir, à tout le moins quelque part, un message dissuasif en raison de pénalités importantes comme ça. Au Canada, ça n'a jamais été comme ça depuis des centenaires, finalement. Et donc, il faut voir de quelle façon on pourrait adresser cette question.
Ouais. Parce qu'au Canada, il n'y a jamais personne de responsable.
Ben, c'était mon propos un peu le contraire. Quand j'ai, cette semaine, dans les médias, on me demandait comment est-ce qu'on... à la fameuse question d'Equifax, pourquoi maintenant il faut faire affaire avec Equifax? Écoutez, le problème n'est pas là. Le problème est de savoir comment se fait-il qu'au départ, je suis obligé de donner de l'information personnelle à la banque parce que je peux rien faire tous les jours sans une banque. Paiement direct à l'épicerie, le sens, la maison, salaire, dépôt direct, retrait automatique, ça me prend une banque. Et là, la banque me rappelle, et j'imagine que vous avez eu les mêmes offres de service, et là, vous dit, écoutez, pour un frais minimum, on va protéger votre identité. Ben voyons donc.
Ça devrait venir avec votre service.
À moins des choses que vous la protégiez.
Ben oui, exactement.
Alors, le problème est au niveau déjà de l'institution financière, et là, c'est pas juste la banque, c'est les assurances, c'est le gouvernement. C'est tout le monde qui a la responsabilité de recevoir une information personnelle doit prendre les moyens de protéger cette donnée-là. Et ça, c'était un peu l'objet de l'étude qu'on a fait pendant toute l'année, autant en sécurité qu'en éthique. Parce que le problème, c'est que, puis allons au niveau business, dans une banque, comme n'importe quelle autre institution, à un moment donné, tu investis un certain montant d'argent pour te protéger au maximum. Et je pense que les protections sont quand même assez bonnes, pour ne pas dire très bonnes, dans la plupart des institutions financières. Mais on est protégé, la machine dont vous parliez tantôt, là, elle est bien protégée, puis elle se protège très bien contre les attaques extérieures. Mais il reste encore le problème...
C'est ça. C'est un problème intérieur, là.
Oui, c'est ça. Et ça, à un moment donné, quelles sont les étapes, quelles sont les procédures internes qui permettent de lever une alerte à l'intérieur du système? Écoutez, cette personne-là vient de télécharger 50, 100 000, 200 000, 1 million de noms. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc, c'est ce genre de procédure interne-là qu'il faut voir enlever du pouvoir ou des capacités pour justement empêcher de trop grands téléchargements, mais le problème, c'est que plus vous mettez des procédures en place, moins vous êtes productif. Donc, les institutions doivent faire un choix. On investit jusqu'à quel point, et la fraude qui va s'en suivre, est-ce qu'elle va me coûter moins cher à payer puis à rembourser, ou ça va me coûter moins cher d'investir ma sécurité? Ça, c'est une question de business qu'ils posent, puis ils n'osent pas l'avouer en comité, parce que ça fout un peu mal de dire, écoutez, je préfère rembourser la fraude que d'investir en sécurité.
Ouais.
Cela dit, ça ne règle pas le problème. Et j'ai eu la question exactement posée à une institution financière. J'ai écouté, qu'est-ce que vous faites avec des situations comme ça? Ah, nous, on n'a pas de problème. Nos clients sont tous protégés. S'il arrive un problème dans leur compte de banque, on les rembourse. Mais il n'est pas là, le problème. On s'en fout du compte de banque. Le compte de banque, pour les criminels, c'est un bonus.
Oui.
Ils ont une donnée active qui est le nom et le numéro d'assurance sociale. Et là, ils vont partir avec le crédit à gauche et à droite. Et la personne réelle qui a le vrai nom et le vrai numéro d'assurance sociale va passer le reste de ses jours à se défendre et à prouver qu'elle est elle-même. Et donc, il faut revoir le problème et le ramener là où ça s'amasse, c'est-à-dire à la source, celui qui gère la donnée.
Donc, si je comprends bien, est-ce que le constat que vous faites dans votre comité, c'est que les données personnelles sont pas si bien protégées que ce qu'on croit. D'ailleurs, je voyais hier qu'Éric Girard, le ministre des Finances du Québec, parce que le Parti québécois, Pascal Bérubé en tête, disait, écoutez, on devrait faire une commission parlementaire ou une commission publique là-dessus pour voir ce qui s'est passé, éviter que ça se reproduise. Et lui disait quelque chose, Éric Girard disait quelque chose qui... Il dit, je le cite, « La sécurité de l'information est un défi de taille qui concerne tous les citoyens. En tout temps, chaque citoyen doit faire preuve de vigilance en effectuant un suivi régulier de ses transactions en demeurant extrêmement prudent vis-à-vis de possibles textos ou courriels frauduleux. » Ça, c'est la base. Je comprends ça. Mais quand on donne ces informations à notre institution financière, on a l'impression qu'on est protégé. Est-ce qu'on l'est vraiment?
Oui. Dans le sens où quand vous dites que nos données sont là et sont moins bien protégées qu'on le pense, je vous propose la chose suivante. Les données sont très bien protégées, les systèmes sont très élaborés et les protections sont très élevées. Il n'y a pas de protection contre l'individu. Donc, à un moment donné, il y a toujours une vulnérabilité et là, on voit l'application directe de ce qu'une personne à l'interne peut faire malgré les meilleurs systèmes au monde qui vous protègent de l'extérieur. Ça, c'est la première chose.
Ouais.
La question de la responsabilité individuelle, ça, c'est l'étape 2, 3, 7, 8 dans la chaîne de transactions. C'est-à-dire que les gens, par exemple, arrêtez de mettre votre vie privée sur Facebook. Les gens prennent de l'information, vous connaissent par cœur quasiment mieux que vous-même, et après ça, se présentent avec votre identité parce qu'ils ont tellement d'informations en main qu'ils peuvent quasiment vivre votre vie.
Est-ce que le commissariat à la protection à la vie privée du Canada devrait avoir davantage de pouvoir pour justement contraindre les entreprises à plus de sécurité?
C'est ce qu'on a demandé au commissaire à Ottawa dans le comité d'éthique où je siège aussi.
Oui.
On lui a demandé quelle est la nature des pouvoirs qui vous permettrait de faire un meilleur travail de façon optimale, justement pour nous aider à protéger ces données-là. Donc, l'échange est en cours. M. Terrien, qui fait un travail admirable, est un habitué du comité. Il nous revient avec des recommandations. Et c'est le genre de choses qu'on se met au gouvernement pour aller de l'avant. Donc, ça, c'est en cours.
M. Picard, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est vrai que je vous remercie.
Au revoir. Michel Picard est député de Montarville pour le Parti libéral du Canada. Il siège au comité permanent de la sécurité publique et nationale.